La revue de presse avec vous, bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Eric, journaliste, c'est un vieux métier également. Bonjour Patricia.
Bonjour Frédéric.
Bonjour à tous. Il y a quand même des gens qui ont des vies exceptionnelles, ou des cerveaux exceptionnels. Et là, je ne parle pas de ceux qui sont dotés d'une intelligence formidable, je ne parle pas de ceux qui ont toujours été des génies, non, mais de ceux qui, alors qu'ils menaient une existence tout à fait normale, ont eu un accident et suite à cet accident se sont découverts des capacités nouvelles. C'est ce que nous raconte le Quinzomadaire Society. Incroyable talent. L'histoire de l'Italien Franco Magnani. On est en 1960, il tombe gravement malade, forte fièvre, il délire. Et une fois guéri, le voilà qui se met à peindre le village de son enfance avec une précision quasi photographique. 2002, c'est l'histoire de l'Américain Jason Padgett. On l'agresse à la sortie d'un karaoké, sévère commotion cérébrale. Mais l'incident l'a transformé en cadre des mathématiques. Et puis en 2012, c'est l'histoire d'un jeune Australien victime d'un accident de la route. Il tombe dans le coma et au bout d'une semaine, ses parents croient rêver. Quand leur fils se réveille, il parle en mandarin. Un mandarin fluide, à l'accent remarquable. Les scientifiques évoquent ici le syndrome de la langue étrangère. Il y a d'autres exemples, on ne les explique pas. Les mystères du cerveau. Les mystères de la vie.
Et ce dimanche, on célèbre aussi un grand mystère.
Le mystère de Pâques. La plus importante fête chrétienne qui donc commémore la résurrection du Christ, passage de la mort à la vie. Un dimanche, pas comme les autres, titre à sa une Le Parisien. Pourquoi pas comme les autres? Eh bien parce que, nous explique le journal, dans l'esprit des catholiques, même d'ailleurs dans l'esprit des autres, flotte encore aujourd'hui l'ombre de Notre-Dame ravagée par les flammes, un angle religieux pour le dossier du grand quotidien populaire et des rencontres avec des prêtres et des fidèles qui font part de leurs peines comme de leurs espoirs. L'espoir qu'on réussisse évidemment à reconstruire la cathédrale et l'espoir que la communauté catholique, fortement ébranlée par de nombreux scandales, se reconstruise avec elle. C'est bien l'espoir d'un nouveau départ qu'on nous raconte ici, l'espoir d'une forme de résurrection. L'émotion provoquée par l'incendie de la cathédrale se lit encore dans la presse ce matin. Le Monde reproduit ainsi des lettres de lecteurs, il y a même quelques poèmes qui disent l'importance historique de l'édifice et la nécessité de se réunir au lieu de se déchirer de bien belles paroles. Comme on a eu aussi lundi le président de la République, mais ce matin le journal du dimanche s'interroge. Notre-Dame, Emmanuel Macron, en fait-il trop ? Analyse d'une séquence dans laquelle, peut-on lire, il a voulu miser sur l'unité nationale pour améliorer son image. Il aime la dramaturgie, il a un sens de l'événement, confie un dirigeant de la majorité. Il a vu tout de suite l'occasion qui s'offrait d'en appeler au rassemblement et il s'est engouffré. Un autre élu plus malicieux confie même... Il a dû s'imaginer au milieu de la cathédrale en ruine, comme à Grande Zéro après le 11 septembre, en rêvant que tout pouvait repartir de là, là encore, comme un rêve de résurrection. L'Hebdo nous apprend par ailleurs que le chef de l'État a appelé le pape mardi dernier pour tenter de le convaincre de venir à Paris au plus vite pour la communication. C'eût été merveilleux. Une prière restait vaine.
Et pour le chef de l'État, l'heure est maintenant à la préparation de son grand oral.
Eh bien oui, après l'annulation de son allocution télé de lundi soir, place à la conférence de presse. Ce sera jeudi prochain. C'est à lire notamment dans Le Parisien, La Parole est à Macron, où l'on découvre notamment que l'ENA pourrait finalement simplement changer de nom et devenir l'Institut supérieur des fonctionnaires, autrement dit l'ISF. Pas forcément très opportun. Dans l'entourage du chef de l'État, on s'inquiète en outre de la durée du rendez-vous de jeudi, se souvenant de son interminable débat avec des intellectuels, un de ses amis plaisantes. Bah, cette fois, on est parti pour du 4h du matin. On va installer des lits de camp pour ceux qui sont fatigués. La fatigue qui se ressent d'ailleurs dans les récits que les journaux font ce matin de la 23e journée de mobilisation des Gilets jaunes. Regain de fièvre jaune à Paris, titre l'Indépendant. Gilets jaunes, pas trop dehors. Tempère centre-presse, n'empêche. On pointe le slogan polémique lancé par certains à l'adresse des forces de l'ordre. Suicidez-vous, suicidez-vous, totalement révoltant. On pointe aussi l'arrestation de plusieurs journalistes révoltants, là aussi. Heureusement, d'autres histoires nous consolent.
Oui, quelques histoires exceptionnelles.
Avec ça et là, des portraits d'hommes et de femmes qui sortent vraiment de l'ordinaire. Le visage d'une militante féministe soudanaise dans M, le magazine du Monde. Elle a 24 ans et sous le nom d'Assadoya, un pseudo qui signifie lionne, elle raconte le courage de ses compatriotes sur Twitter. Elle y parle misogynie, patriarcat, sexisme. Et ces dernières semaines, elle y faisait aussi le décompte des morts des manifestations. Une cinquantaine depuis le début de la révolution en décembre. Elle-même blessée à la jambe, elle a souvent craint pour sa vie. Les soudanaises qui parlent ont essayé de les faire taire. Mais avec l'éviction d'Omar El-Bashi, le climat semble avoir changé. Enfin, je n'ai plus peur, dit-elle, le pays me protège. Autre femme étonnante à découvrir dans Paris Match, portrait de Françoise d'Avary, que dans le milieu des malfrats on surnommait la baronne. Accusée d'espionnage, proche du gang de la Brise de Mer, elle a fait le tour des prisons de la planète, mais assure ne rien regretter de sa vie d'aventurière. Cela étant, à 68 ans, elle mène désormais une existence loin des ennuis. Lisez ce papier que signe Gauthier Battistella, les mémoires d'une repentie recueillie par un romancier, Françoise d'Avary. A revêtu, dit-elle, une trentaine d'identités. Même mon chien avait un faux passeport. Cette phrase est quand même magnifique.
Oui, magnifique, effectivement. Comme la série de photos que publie le magazine L'Équipe.
Retour sur le Paris-Roubaix qui s'est couru dimanche dernier. Une course qui meurtrit les corps et les visages comme aucune autre, ainsi qu'on le voit sur les clichés de Laurent Gudin. Il a photographié des coureurs avant et après leur bataille contre les pavés. La fatigue et la terre, on les croirait sortis d'une mine. On dirait qu'ils ont pris 10 ans, c'est absolument saisissant. L'Hebdo propose aussi le long portrait d'un footballeur, l'attaquant André-Pierre Gignac, qui depuis 4 ans vit un rêve éveillé au Mexique. Il joue dans l'équipe des Tigres de Monterrey. Et là-bas, Gignac est une star des centaines de milliers de fans, dont certains vont jusqu'à lui demander de signer un autographe sur leur peau, autographe qu'ils vont se faire tatouer dans la foulée. Ça doit quand même faire un petit peu drôle. Vous verrez, Eric, quand ça vous arrivera.
Je ne le souhaite pas.
Ici donc, l'histoire du tigre Gignac. Au Soudan, c'était une lionne. Terminons par un sagouin. C'est un singe, le sagouin. Mais c'est également le synonyme de mufle. L'histoire est à lire ce matin dans le Républicain Lorrain. C'était sur l'autoroute A4. Un homme qui se fait arrêter pour un contrôle par les gendarmes. Et qu'a fait l'automobiliste? Il a pris la fuite à pied en laissant sa copine en plan sur l'autoroute. Là, d'emblée, on a envie de dire, mademoiselle, barrez-vous, vous aussi, et trouvez-vous un mec sympa. Sympa, c'est bien déjà, même si ce n'est pas exceptionnel.
Un mec sympa, Frédéric Pommier pour la revue de presse.